Il y a beaucoup de raisons pour partir en pèlerinage. Ça peut être une rupture ou ça peut être quelque chose de mûri depuis très longtemps. Dans mon cas, c'est quelque chose dont j'avais envie depuis une petite année. J'avais déjà été à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était pour moi une démarche de foi pour prendre du temps avec Jésus. C'est une longue retraite qui passe par les pieds, qui est physique, mais c'est vraiment un temps où on s'abandonne à la Providence, où on fait confiance à Jésus et on donne des choses qui ont très peu de valeur, hein. On donne un peu d'effort, mais lui en fait des choses plus belles.
Vous dites on donne un peu d'effort, ça se concrétise par les pieds, mais aussi...
Alors, c'est effectivement d'abord l'effort physique, puisque sur le trajet, c'est pas tout plat. Et puis c'est aussi, je pense, prendre le temps de prier, d'assister à la messe autant que possible. On peut s'organiser pour y assister le dimanche, parce que ça on peut prévoir. Pour la messe quotidienne, on fait un petit peu confiance aux paroisses qu'on traverse. La marche, l'exercice physique ne porte pas à une prière peut-être très sophistiquée. C'est un peu compliqué de dire la liturgie des heures, mais on peut prier le chapelet. Et puis aussi la prière très belle qu'on comprend souvent comme la prière du pèlerin russe, c'est-à-dire « Seigneur, prends pitié de nous », qu'on peut dire en toutes les langues, en italien c'est joli, ça donne « Signore, abbi pietà di noi », et qui est très adapté au rythme de la marche, de même qu'à la messe, on commence par le Kyrie, Kyrie eleison, ben, en marchant, on prie et on demande la miséricorde du Seigneur.
Vous avez donc quitté, comme dans l'Évangile, votre confort, vos habitudes. Comment l'avez-vous vécu? Est-ce que ça a été un déchirement, quelque chose, une étape, ou ça faisait partie du kit pèlerin?
Le kit pèlerin. Alors, il faut, dans l'Évangile, ou dans, je pense, dans une démarche de vocation, on quitte vraiment tout. Un pèlerinage, il y a quand même une fin. Donc, c'est pas tout à fait la même radicalité. D'une certaine manière, on sait qu'une fois qu'on est arrivé, on va revenir à son domicile ou à son travail précédent. Alors après, se pose la question de qu'est-ce qu'il est raisonnable d'abandonner ou pas, qu'est-ce que ça veut dire vivre de la Providence. Je pense que là, on est tous un petit peu différents. Je pense que Jésus demande des choses différentes à chacun. La difficulté, finalement, c'est de ne pas vouloir presque trop donner. Dans mon cas, je sais que j'ai des choses que j'ai données qui n'étaient pas demandées, et donc c'est une forme d'orgueil. Ceci dit, Dieu travaille aussi avec l'orgueil des hommes, et donc on lui donne des choses qu'il ne demande pas, et lui, il les transforme en des choses beaucoup plus belles. Et particulièrement dans l'approche de l'abandon, de la pauvreté, il faut faire, je crois, très attention aux idées romantiques. Par exemple, l'image du pèlerin et du saint français pèlerin, c'est saint Benoît-Joseph Labre, qui est parti du nord de la France, la Miette, et qui est venu d'abord à Rome, et puis qui est allé à la Salette, qui a fait des allers-retours, et qui, à l'âge de 35 ans, meurt pas très loin d'ici, au Colisée. Et quand on écoute cette histoire, on a tout de suite le sentiment premier, c'est un sentiment un peu romantique, c'est-à-dire c'est « Ah, c'est beau !» Et il faut savoir probablement dépasser cela et puis voir que la figure du saint, elle vient pas du fait qu'il mangeait pas grand-chose ou qu'il faisait des kilomètres, elle vient du fait qu'il a été conformé par la grâce à Jésus. Et donc quand on dépasse un petit peu le côté romantique, ce qui arrive assez vite parce que dès qu'on est confronté à des réalités un peu concrètes, le romantisme tombe. On se rend compte que la démarche spirituelle de pèlerinage est une démarche un peu plus intense, mais c'est toute la démarche de toute la vie, de proximité avec Dieu et puis de dépouillement progressif.
Vous étiez donc accompagné par des modèles de saints qui ont fait la même démarche ?
Encore une fois, en faisant attention à ne pas se prendre pour un saint, justement. Mais c'est vrai que je pense qu'il est bon de s'en remettre à l'intercession de certains saints. Paris-Rome, il y a Benoît-Joseph Labre, il y a aussi saint Ignace de Loyola. Et puis il y a les saints qu'on croise sur le trajet. Donc je suis passé à Saint-Benoît-sur-Loire, je suis passé à Vézelay, donc Sainte-Marie-Madeleine, je suis passé à Ars, Saint-Jean-Marie-Vianney, à Paray-le-Monial, Sainte-Marguerite-Marie, Saint-François de Sales, dont j'ai traversé le diocèse historique près de Genève, donc Saint-François d'Assise, qui est le patron de toute l'Italie. Et c'est vrai que la démarche franciscaine de pauvreté radicale et de vie évangélique n'est pas loin de l'idée du pèlerinage.
Qu'est-ce que ça vous fait d'être arrivé ?
Les premiers jours, on est, je l'ai dit à beaucoup de monde, mais je crois que c'était assez juste, on est un peu comme Saint-Pierre sur le mont Tabor, on voudrait planter sa tente et rester là parce qu'on y est bien. C'est parce qu'on a été finalement simplifié et que Jésus prend en soi plus de place que d'habitude, d'une certaine manière. Et puis, à la redescente, on la craint un petit peu, parce qu'on sait ce qu'on a quitté, on sait d'une certaine manière aussi les difficultés spirituelles, j'entends, qu'on a quittées. Et on sait que le pèlerinage n'a pas tout changé, donc ce qui était difficile avant va de nouveau être difficile. ce qui a été changé, d'une certaine manière, on ne le connaît pas.
Alors, comment ça s'est passé? Vous aviez prévu une sorte de carnet d'adresses qui vous permettrait de savoir où est-ce que vous alliez dormir chaque soir?
Alors, non, j'avais fait le choix de m'en remettre pour ça à la Providence. De temps en temps, elle donne un très bon lit et de temps en temps, elle permet de dormir dehors, probablement pour de bonnes raisons.
Vous auriez un exemple, une anecdote de moments où ça s'est plutôt bien passé ou de moments où c'était plus difficile à vivre?
Alors, oui, tout à fait, j'en ai beaucoup. Ce qui est difficile, c'est le fait de ne pas se sentir accueilli. Dormir dehors, c'est pas très difficile. On a juste besoin d'une douche, mais ça, c'est pas très grave. La blessure, d'une certaine manière, c'est quand on a l'espérance d'être accueilli et qu'on ne l'est pas. Alors, ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai pas trop envie de donner de nom, mais l'expérience, c'est ça. C'est aller vers un prêtre ou aller vers une communauté, frapper à la porte et puis se sentir rejeté.
Alors dans ces cas-là, on vous refuse une première fois, vous allez chercher ailleurs, vous frappez systématiquement aux communautés, aux presbytères, ou vous cherchez un autre moyen?
Alors les presbytères toujours, les communautés aussi, si c'est possible, et puis il y a des endroits où il n'y a rien. Donc notamment quand on traverse la France, il y a des endroits où on peut faire 50 km sans trouver un presbytère habité. On tourne un petit peu, mais si vous êtes dans un village où il y a, ou une ville, petite ville où il y a 1000 habitants ou moins, vous avez vite fait le tour et puis vous savez que ça ne va pas être facile. C'est rare que spontanément on propose l'accueil, ça m'est arrivé deux fois.
Et donc, vous pourriez nous raconter ?
Oui, alors il y a une fois où j'étais en train de me mettre dans un coin près de la mairie, j'avais sous un auvent, donc je pensais que j'allais être assez bien, même si c'était dehors. Puis il y a un jeune homme qui passe et qui me dit « Ah, mais ma voisine a... un lit de camp juste sous sa véranda, je pense qu'on doit pouvoir vous mettre là. » Et donc j'ai dormi à l'abri sur un bon lit, et puis on m'a invité à dîner aussi. Et l'autre fois, très belle, c'était dans un petit village, pas très loin de Lyon. J'avais frappé au presbytère et le prêtre m'avait dit qu'il n'était pas possible de me recevoir. Donc je tourne un peu, on est un peu en altitude et je craignais qu'il pleuve, donc j'avais pas très envie de dormir dehors. Et puis, j'étais sur la place du village, et là, une dame, assez spontanément, finalement, vient vers moi et me demande si j'ai besoin de quelque chose, et puis me propose de venir dîner chez elle. Elle me demande d'attendre son mari, juste pour être sûr. Et puis, donc, je vais avec eux, ils ont cinq enfants, on dîne ensemble, et puis ils m'ont assez spontanément proposé de dormir là. Bon, ça reste, je crois, un des très, très grands souvenirs de mon pèlerinage. C'est une famille qui avait très peu de choses, mais qui ont fait cet effort de m'accueillir chez eux.
Et dans ces cas-là, ce sont des familles qui, se rappelant l'hospitalité dans l'Évangile, essaient de le pratiquer, ou des
personnes
qui sont...
En l'occurrence, pas du tout, puisqu'ils n'étaient pas pratiquants. Donc c'était juste, parce que quand on voit quelqu'un qui visiblement a besoin de quelque chose, et on peut spontanément le lui proposer. Les chrétiens sont encore plus appelés parce qu'on le leur a rappelé, parce qu'on le leur a dit. Mais toute personne est spontanément portée à accueillir l'autre. Et on a tous fait cette expérience où on veut aider, puis on n'ose pas. Mais cette ouverture à l'autre est un mouvement de l'âme qui n'est pas réservé aux chrétiens, loin de là. Et alors vous m'avez demandé de vous parler des bonnes occasions aussi. La première, c'était deux jours après une nuit particulièrement difficile. Le budget étant ce qu'il était, je commençais à me demander comment est-ce que j'allais manger jusqu'à Rome.
Alors vous dites une nuit difficile, vous aviez dormi dehors?
Oui, dehors, il pleuvait et j'avais finalement trouvé un endroit où dormir à 1h30 du matin. J'avais été refusé par trois paroisses à ce moment-là. Et là-dessus, j'arrive à Lucca. Et donc Lucca, c'est le nord-ouest de la Toscane. C'est une très belle ville gothique. J'arrive de nuit. Et je vais tout de suite, je me dis, il faut que je trouve un endroit où être accueilli, parce que s'il faut que je cherche toute la nuit, ça va être un peu compliqué. Je passe une première église, où c'était un dimanche, la messe était célébrée à 7h, moi je suis arrivé à 7h20. Je me dis, je ne vais pas rester, parce que si j'attends 8h et que le curé ne me reçoit pas, je ne sais pas où je vais aller. Puis je fais un petit tour de Lucca et tout était un peu fermé, donc je reviens à la première église. Et donc à la fin de la messe, je vais voir le prêtre et je lui explique. Et il me regarde... avec beaucoup de douceur, il me dit « Ah oui, c'est vrai, je crois qu'on n'a rien pour loger les pèlerins. Bah, vous avez un sac de couchage, je vais vous offrir une pièce. Attendez-moi sur la place à côté. » Et puis, pendant que j'attends, je vois à côté de moi des gens en habits médiévaux. Alors, je leur demande, ils étaient en train de reconstituer un dîner du Moyen-Âge. Alors, ils avaient fait un menu et cuisiné un menu de 1482. Puis bon, moi, j'attends toujours l'ouverture. Et puis là, le prêtre ouvre le presbytère et me dit « Bah, écoutez, vous allez dormir là. » Alors, il me montre un petit peu, c'était très bien. Et puis, pour dîner, vous allez dîner avec ces gens-là. Et donc, j'ai dîné à Lucca avec une trentaine de personnes, tous en habits d'époque. Et on a très, très bien mangé des plats qui étaient préparés suivant une recette du Moyen-Âge.
Parce qu'au niveau pécunier, vous aviez fait vos calculs pour pouvoir subsister jusqu'à la fin, ou c'était de l'à peu près et...
J'avais beaucoup hésité, je ne savais pas ce qui était juste de faire, et j'avais choisi de prendre peu d'argent. Donc je devais avoir en partant 120, 130 euros. Et donc, progressivement, j'ai eu de moins en moins d'argent. Alors, j'ai jamais eu à payer pour la nuit, mais il faut quand même se nourrir. Et puis j'ai réussi à récupérer un peu d'argent par moi-même et par ma banque.
Alors vous allez recommencer votre travail. Qu'est-ce que vous aurez découvert? Qu'est-ce que vous aurez appris au cours de ces 2 mois?
Je vais retourner la question. Beaucoup de gens me disent, mais alors ça a dû être une expérience formidable. Vous avez dû voir plein de choses, vous avez dû apprendre plein de choses. Et c'est vrai. Mais au final, l'important n'est pas là. L'important est vraiment, quelle est la valeur pour la construction du royaume, que ce soit maintenant ou que ce soit plus tard. Et les prêtres, tout particulièrement en Italie, qui célébraient, alors que j'étais là, souvent, bon, il y a un pèlerin, on en parle un petit peu pendant l'homélie, et puis certains commençaient à dire, ils marchent pour les conversions, ou ils marchent pour les âmes du purgatoire. Et puis moi, à l'inverse, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on devrait m'aider? Après tout, je suis juste un jeune de 30 ans qui a décidé de prendre 2 mois de vacances et de se promener, et qui n'a pas pris beaucoup d'argent, mais c'est son problème. Et c'est là que on comprend que finalement l'important du pèlerinage, c'est pas ce que j'ai reçu, c'est pas ce qui a été changé en moi, mais c'est bien d'avoir pu pendant un moment porter d'une manière spéciale la prière de l'Église. Un pèlerin est pour une petite période un intercesseur particulier, et il l'est pas par ses propres mérites, il l'est juste par la grâce du pèlerinage.
C'était notre invité du dimanche, Christian Dujardin, qui nous parlait de son pèlerinage de Paris à Rome à pied.